Bien le bonjour, comment allez-vous? Vendredi le 8 novembre, bienvenue à Sortie de zone. Aujourd'hui avec nous, Jean-François Tremblay, Guillaume Lefrançois, Jérémy Rainville et votre humble serviteur, Mario Langlois. Lendemain de défaite du Canadien, défaite en prolongation. Les gars, bonjour, comment allez-vous? Salut Jérémy, salut Guillaume, Mario. Salut Jean-François.
Salut Mario.
Quel goût vous reste en bouche à la suite de cette défaite-là? En tout cas, je serais bien curieux de savoir ce que ça goûtait dans la bouche de Carey Price, parce que, oh, pelaïque...
Ça goûtait pas bon.
Non, mais c'est rare. C'est pas si souvent qu'on le voit manifester là, son mécontentement.
Il y a un bâton qui a payé le prix à quel match.
Il était pas content. Et là, ben parlons-en dès le début. Tout un match, mais il y en a. Tu sais, ceux qui aiment décocher des flèches envers Carey Price vont dire, ben oui, mais c'est lui qui a coûté le 2 points.
Ouais,
c'est lui qui a valu le point.
Ben, c'est
ça à l'inverse.
Il y en a qui me disent, c'est interdit de dire un mot négatif contre Carey Price à Montréal. Je n'aimerais pas son nom. S'il l'écoute, il va s'en connaître.
Non, mais je pense que dans le cas d'hier, c'est de dire les choses comme elles sont. Il a été mauvais sur le dernier but. Il a été excellent le reste de la soirée. Il a été le meilleur joueur de cette équipe-là le reste de la soirée. Et il est l'unique raison pour laquelle le Canadien est sorti de là avec un point. Je pense que si on le présente comme ça, c'est la bonne façon. Moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est justement sa réaction. Parce que sans dire qu'il aurait pu sortir de là le gros sourire, je veux dire, il n'y avait pas non plus à être aussi sévère que ça. Mais ce qu'on a vu, c'est un athlète fier qui a... Peu importe les 40 arrêts qu'il a pu faire avant, c'est le dernier tir qui comptait, puis c'est lui, c'est ce tir-là dont il s'est souvenu.
De toute façon, les partisans n'aiment pas ça, un gars qui sourit après une défaite. Hein, les gars?
Non, mais il n'a pas souri, mais il était vraiment... S'il avait perdu 6-1, il aurait pu être aussi fâché. Puis là, oui. Donc, c'est ça. C'est la preuve vraiment d'un gars qui s'est souvenu d'un seul tir de ce match-là.
Il avait raison, honnêtement. Il avait raison parce que c'est un très mauvais but.
Ah, absolument.
D'autant plus que ça lui traverse le corps, ça lui passe sous le bras, puis il échappe la rondelle, ça le touche, ça roule dans le fond du filet. Puis il avait raison d'être comme ça. Moi, je pense que c'est juste c'est une bonne chose de le voir de cette façon-là. Mais par contre, écoute, le nombre de boulettes qu'il y a eu dans le match par l'ensemble de son club ne vaut pas la boulette que lui a donnée en prolongation.
Ah, mais c'est exactement.
C'était une soirée pitoyable pour l'ensemble des joueurs du Canadien. On a beau dire que c'était un bon début de match. Je pense que le trio de Thompson a connu un bon début de match, mais à part ça, là, c'était des pénalités inutiles. C'était un mauvais tempo pour le Canadien. Donc, Price, je comprends. On est heureux de le voir déçu, mais sincèrement, il n'a pas à se flageller parce que son club ne l'a pas aidé pendant ce match-là.
Ah, je suis entièrement d'accord avec toi, Jérémy. Là, je veux dire, Carey Price, là, à un moment donné, on avait eu la discussion d'ailleurs il y a quelques jours. Est-ce que le pourcentage d'arrêt, est-ce que la moyenne et représentative de ce que fait Carey Price devant le filet. Puis moi j'avais défendu qu'il faisait plus que ce que sa moyenne d'arrêt
indiquait.
On l'a clairement vu hier, le Carey Price, c'est tout un gardien de but. Le 40 quelques arrêts, là, autour de 40 arrêts.
Il y a eu 43 tirs, il a donné 3 buts, fait 40 arrêts.
Honnêtement, j'ai même un malaise à parler de ce mauvais but-là en prolongation parce qu'il a fait des miracles avant. Il y a eu 6 avantages numériques des Flyers. Si je me rappelle bien, le chiffre était 6 avantages numériques.
Mais ça compte
les
plus.
Un tir de pénalité en plus. Tout le monde en avant de lui, ou presque tout le monde en avant de lui, a joué là, comme si ça leur tentait pas du tout. À un moment donné, le Carey Price, il y a un point hier. Je veux même pas parler du mauvais but. Je suis pas capable de parler de ce mauvais but-là.
Je veux juste rajouter quelque chose. Écoute, je suis pas un fan de statistiques, mais je pense qu'il y a des chiffres des fois qui parlent. À 9 minutes de la deuxième période, quand il restait 9 minutes à faire en deuxième période, c'était 31 lancés pour les Flyers contre 13 pour le Canadien.
Exactement.
Fait que ça vous donne un peu l'image du match. Et ce que je trouve difficile à comprendre, c'est que lorsqu'on connaît un mauvais match, et ça arrive dans la Ligue nationale, ça arrive partout. Tu connais une mauvaise journée au bureau, ça arrive. Mais chez le Canadien, c'est encore plus coûteux parce que défensivement, ce qu'on fait, c'est que tout le monde se met à jouer au gardien de but. Fait que Price, en plus, il y a les joueurs des Flyers qui sont devant lui et tout le monde joue au gardien de but de son club. Fait que donc, tu sais, je veux pas l'excuser, mais je veux dire, quand on joue vraiment mal chez le Canadien. Puis c'est ce qu'on a vu hier.
Ouais, c'était pas tellement convaincant et Claude Julien a passé sa colère sur les officiels en partie. Mais je pense que Carey Price, juste pour peut-être ajouter un petit mot là-dedans, Carey Price, je ne suis pas dans sa tête, là. C'est de la spéculation totale, mais il est fâché après lui, 99,9%. Mais c'est sûr que, mettez-vous à sa place, les gars. Là t'as gaulé sa tête la game, là tu te fais passer un sapin. C'est sûr que t'es pas content, mais en passant, t'as envie de créer une petite onde de choc autour de toi aussi. Je pense que quand Carey affiche cette humeur-là, c'est après lui, mais c'est un petit message au club aussi. Hey, ben, pensez pas qu'il y a un petit peu de ça?
En fait, que son intention soit un message envers le club ou pas, on le sait pas, comme je disais, on n'est pas dans sa tête, mais c'est sûr que ça a cet effet-là sur son équipe. C'est sûr que ses coéquipiers qui le voient dans cette humeur-là après un match perçoivent ce message-là. Après ça, que ce soit l'intention à Price ou pas, personne ne le sait, puis il y a une seule personne qui le sait sur sa planète. Mais ses coéquipiers, c'est sûr qu'ils le perçoivent comme ça, ils ne voudront pas le laisser tomber la prochaine fois.
Ben moi, je peux vous dire une chose, là, si je m'appelle Thomas Tatar, là, je ne l'ai pas trop regardé Carey Price après le match. Je suis resté low profile.
C'est lui qui va ramasser la facture de steak.
En fait, Jérémy, qui tu veux regarder si tu t'appelles Thomas Tatar après le match hier?
Ouais, coach,
en tout cas, c'est
la mascotte, Gritty, peut-être. Il a-tu invité Gritty à aller prendre une bière? Je sais pas. Je pense qu'il n'y a pas eu le temps.
Quand ton coach dit publiquement il n'a pas été bon à soir, c'est ce qu'il a dit après le match. Oui. Il n'a pas été bon à soir. Oui. Écoute, ça, c'est clair, net et précis. Puis, savez-vous quoi? C'est correct parce que honnêtement, Thomas Tatar était en retard sur les jeux. Puis, tu sais, de prendre des pénalités parce qu'on va dire que c'est lui le plus puni chez les Canadiens de Montréal, c'est parce qu'il y a une raison à ça. C'est parce que lui n'a pas le même dynamisme dans son coup de patin, c'est toujours clair. En retard, pense plus offensivement, se place pas en position pour être prêt défensivement.
Il triche,
il fait que tricher tout le temps. Fait qu'il se fait prendre, puis il prend des pénalités. C'est pas plus compliqué que ça, là.
Puis la pénalité de Thomas Tatar, le retenir le bâton. Moi, ce qui me fâche dans une pénalité comme celle de Thomas Tatar, puis il y en a eu quelques-unes depuis le début de la saison, c'est des pénalités inutile. C'est le mot inutile. C'est criminel faire ça. Retenir un bâton complètement inutilement. Ou
à chaque fois dans son cas. Là,
ou des pénalités en zone offensive. Je veux dire, je n'en reviens pas encore.
Et là, on pourrait établir qu'est-ce qu'une pénalité
hors de moi,
utile.
Mario.
Parce que, ça m'a fait rire hier. J'entendais salut au gars de RDS puis à Mario Tremblay, qui est un de nos amis, évidemment, un de nos gars au 98.5, parce que la même conversation se présentait hier soir. Fait que là, quand les gars dénonçaient les mauvaises punitions, fait que là, il y en a un qui dit, je pense que c'est François Gagnon, qui dit, ouais, au moins une bonne. Fait que là, Mario, d'arriver avec une pensée moderne sur la situation, ouais, un bon cross-check.
Non, mais c'est vrai pareil. Si ton équipe est débordée dans son territoire, puis que Ben Chiarot, on va dire, fait le ménage, puis qu'il va un peu trop fort, ça va, c'est quand même plus acceptable que justement que d'être constamment en arrière du jeu puis tout ça comme ça arrive trop souvent à Tatar. L'autre chose avec Tatar, Julien hier a dit qu'il avait été mauvais. Ça fait un petit bout.
D'ensemble, Claude, et c'est toi qui prends le flambeau immédiatement après. C'est rare qu'il dise ça publiquement dans le
C'est des choses qu'on lui parle qu'il faut qu'il arrête, mais plus que ça, c'est pas seulement les punitions. Là. Il était pas bon ce soir-là. Le long des rampes, il perdait les bagarres. Puis c'était pas son soir. Ça fait partie de mon travail de faire un changement. Ça ne lui enlève pas rien que c'est un bon joueur et qu'il reste probablement de retourner sur son trio. Là, mais je te dirais que ce soir, c'est un match vraiment difficile pour lui.
Les gars, remettez les mêmes paroles dans la bouche de votre conjointe.
Il était pas bon.
Je pense que vous n'aurez pas une bonne nuit. Mais Guillaume, je t'écoute pour la suite.
C'est ça. Là, hier, il l'a dit très, très clairement, mais moi, ça m'avait frappé une première fois le matin du match à Dallas la semaine dernière. On est dans le point de presse de Claude Julien. Je pose une question à Claude Julien sur la discipline de Domi et de Gallagher, qui n'ont pas encore de pénalité. Je mentionne jamais Tatar ou les autres joueurs comme ça. Je mentionne Domi, Gallagher, l'énergie. Et c'est Julien lui-même qui a fait un détour pour parler des 8 punitions de Thomas Tatar et puis de critiquer cet aspect-là de son jeu puis de dire ce que ça dit finalement sur son jeu. Je pense qu'on a là un entraîneur qui commence drôlement à perdre patience avec son joueur. En même temps, il y a un trio qui fonctionne avec Dano et Gallagher, même si c'est pas aussi efficace, ce trio-là était capable de jouer.
Mais je pense que la question qui s'impose, c'est qu'est-ce qu'on peut avoir en retour de Tatar, les gars?
Max Pacioretty. De ce que j'ai compris, ça marche comme ça. Mais je bondis sur ce que Guillaume dit. Thomas Tatar, sa rédemption se trouve dans le fait que son trio avec Dano et Gallagher est un bon trio qui fonctionne bien. On l'a vu contre les Bruins de Boston, une performance exceptionnelle de trio, probablement contre le meilleur trio de la LNH. Ils ont connu toute une soirée pour Thomas Tatar. Moi, j'amène le point à l'inverse qu'un Arturi Lekkonen qui sert absolument à rien en ce moment et qui est tout autant... Là, Tatar a 20 minutes de pénalité cette saison. Lekkonen est à 14. Lekkonen, en ce moment, nuit plus qu'aide.
Ah non, mais attends, là. Il donne un bon coup de main pour le désavantage numérique. Tout le monde en sensé.
Il y a son chum Tatar en tout cas.
Oui,
il
l'a sauvé.
Les gars se donnent un coup de main. Les
Canadiens ont une bonne soirée en désavantage numérique. Hier était merveilleuse, mais cette année, là, c'est.
Non, c'est
oui et non.
Puis moi, je veux juste dire, dans le cas de Tatar, tu sais, pauvre gars. Honnêtement, pauvre gars. Le gars, il est marqué, ça, c'est sûr. Les officiels s'en parlent. Mais la problématique, tu sais, on parle d'indiscipline. Je pense pas que, tu sais, Andrew Shaw était par moment indiscipliné en donnant un double échec. Max Domi, par moment, l'an passé, pouvait être indiscipliné. Thomas Tatar, il est juste un peu paresseux et il triche cette année. C'est ça qu'on demande à Thomas Tatar, c'est redeviens le joueur d'énergie que tu étais l'an passé, redeviens le gars explosif que tu étais et tu n'auras pas besoin de prendre de pénalité. J'ai l'impression que Claude Julien essaie plus de donner un électrochoc à Tatar pour dire réveille mon homme, on a besoin de ton coup de patin, on a besoin de ta fougue, on n'a pas besoin de tes pénalités. Je pense plus que c'est là que de l'indiscipline, un gars frustré ou quoi que ce soit. C'est juste
ben, ça devient de l'indiscipline. Le résultat, oui, Jérémy,
c'est en fait une autre forme d'indiscipline.
Ça devient de l'indiscipline pareil. Oui. T'sais. Mais je comprends la manière que tu l'expliques, là, mais
mais c'est une drôle de soirée. Une drôle de soirée, quand même.
Hey.
Six pénalités contre le Canadien, zéro contre les Flyers.
Ben, on va écouter Claude Julien, justement, à propos de ses amis. De ses amis du zoo de Granby, dans le département des Zèbres.
À la fin, tu vois Drouin qui reçoit un bâton au visage. L'arbitre l'a vu, mais a décidé de ne pas le coller. Ça, c'est eux. Pour moi, là, c'est ce qui est frustrant. Puis je pense qu'à un moment donné, on doit se tenir, comme qu'on dit, responsable de nos actions qu'on doit faire. Mais eux aussi ont cette responsabilité-là aussi.
Est-ce que c'était de la faute des arbitres ou les arbitres ont servi de bouclier à la colère de Claude Julien au lieu qu'ils s'en prennent à ses joueurs, les gars?
Non, je pense que de toute façon, Julien, dans le reste de son point de presse, a blâmé un peu tout le monde, un après l'autre. Il a parlé de Tatar, il a parlé des punitions de Lekkonen, il a parlé du défenseur sans le nommer qui dormait au gaz sur la pénalité d'avoir eu trop d'hommes sur la patinoire. On a deviné que c'était possiblement Mike Riley. Mais bon, Claude Julien ne l'a pas nommé. Donc, il a quand même, je pense qu'il a quand même pris responsabilité pour plusieurs des pénalités de son équipe. Mm-hmm. Mais c'est sûr que celle-là lui laisse visiblement un goût amer.
La défaite du Canadien hier, c'était les frites, c'était le fromage et c'était la sauce, c'était le Canadien. Disons que les arbitres, là, c'était peut-être les saucisses que tu mets sur le dessus quand ta poutine devient fancy.
Ouais.
Moi, je te dirais que tu avais quand même une poutine avant les mauvaises décisions des arbitres.
Il reste qu'un bâton élevé contre Drouin qui est ignoré.
Mais c'est la
pénalité pour avoir retardé le match. Jérémy, tu vas développer là-dessus dans un instant. Lancer de pénalité. Il y avait peut-être raison de se sentir un peu persécuté et c'est pour ça qu'on s'amuse à dire est-ce que c'est de la faute aux arbitres. Mais j'ai surtout envie de vous demander, Claude Julien a-t-il une mauvaise relation avec les arbitres en général et son équipe en paie-t-elle le prix?
Ben moi, je pense qu'hier, en tout cas, ça a chialé au banc du Canadien de Montréal. T'sais. Fait que quand les officiels entendent un coach en chef chialer et tout le monde se plaint, en quelque part, veut pas, ce sont des humains, puis la relation devient plus difficile. Est-ce que c'est justifié de ne pas avoir donné la pénalité sur Drouin? Je ne crois pas. Est-ce que c'est justifié de mettre en doute qu'il y avait un lancer de pénalité? Je crois pas non plus. J'ai l'impression que Claude Julien passait un peu sa frustration sur les officiels, étant donné que son club allait nulle part. Je suis pas convaincu qu'il avait complètement raison de faire ça. Malgré le fait que c'est 6 punitions pour le Canadien contre 0 pour les Flyers.
6-0,
c'est rare.
C'est rare
que ça arrive comme ça.
Mais en même temps, ça montre que le Canadien joue un très mauvais match parce que, mis à part le bâton élevé contre Drouin, je vois pas vraiment d'autres moments où les arbitres ont fermé les yeux sur des punitions évidentes.
Des Flyers.
Exactement. Le Canadien n'a pas forcé les Flyers
à jouer. Quand tu travailles pas, c'est rare, tu fais prendre des pénalités aux adversaires.
Exactement.
Quand le Canadien, toute équipe qui veut la rondelle, généralement, qu'est-ce qui arrive? L'autre équipe prend quelques pénalités.
C'est rien passé.
Le Canadien n'a pas forcément un grand monde hier. Là, c'est un match très décevant. C'est le 1201e de la carrière de Claude Julien. Puis honnêtement, c'est pas qu'ils ont tellement mieux joué dans le 1200e contre les Bruins. Et étrangement, quand tu regardes l'affiche des Canadiens dans la dernière séquence de match, c'est assez positif malgré tout parce que là, dans le fond, t'as juste 2 défaites de suite et t'as 1 point sur 4. Mais la qualité du jeu, il me semble, c'est un élastique qui va péter si les gars jouent pas mieux que ça éventuellement. Mais je voulais revenir, Jérémy, t'es retourné voir, t'as réétudié la séquence quand on a retardé la partie. Là,
ouais,
qu'est-ce qui s'est passé exactement dans ta perception à toi?
Ben, écoute, tout ça a commencé avec le commentaire d'après-match de Claude Julien. Hier, on était en ondes à Bonsoir les sportifs. Je fais jouer le point de presse de Claude Julien, puis je l'entends déblatérer contre les officiels en disant, tu sais, ce qui est arrivé dans cette affaire-là, c'est qu'il y a eu un dégagement refusé. Premièrement, nous, on mettait en doute qu'il y a un dégagement refusé. Fait que donc, il y a eu une première séance, disons, de conversation assez intense entre lui et les officiels. Et là, il dit, par la suite, donc, les joueurs changent, et là, le règlement de la Ligue nationale stipule que tu peux pas avoir un changement sur un dégagement refusé. Donc, l'officiel voulait pas que je rembarque les joueurs qui étaient déjà sur la glace, et c'est pour ça qu'il nous a donné une pénalité. Fait que là, je fais, mon Dieu Seigneur, quelle bourde de la part de l'officiel si on n'a pas laissé les joueurs qui étaient sur la patinoire dans le dégagement refusé revenir sur la patinoire. Mais je me suis dit, et puis je l'ai dit en ondes, ça c'est la version de Claude Julien. Fait que donc ce matin, je me suis levé, j'avais enregistré le match et j'ai été regardé. Je me suis dit, OK, quel joueur était sa patinoire quand le dégagement était refusé? Les joueurs sur la patinoire, c'était Lekkonen, c'était Domi et c'était Paul Byron. Il y avait eu un changement, donc vous comprenez qu'il y avait eu un changement du joueur de centre. Domi était déjà là. Et là, quand on arrive dans la séquence, et pour une raison que j'ignore, il y a une pause commerciale, à moins que je me trompe, il y a une pause commerciale là, et quand on est revenu, les trois joueurs qui étaient alignés pour le Canadien de Montréal avant que l'officiel décerne la pénalité, c'était Lekkonen, c'était Armia et c'était Byron. Ce que ça veut dire, c'est que Armia s'est amené et... On disait du côté de Claude Julien qu'il tentait de ramener ses joueurs sur la patinoire qui était là au dégagement, mais ce qu'on les deux joueurs qu'on voit qui tentent d'embarquer sur la patinoire, c'est Dano et c'est Drouin. Fait qu'en aucun temps, Domi était là. Et là, j'ai l'impression que Claude Julien, essayant d'en passer une petite vite, c'est qu'il a voulu enlever Max Domi parce qu'on avait une mise en jeu dans notre zone. Et Max Domi est 33% d'efficacité durant le match, comparativement à un Philippe Dano qui est à 62%. Fait qu'avant de blâmer les officiels, peut-être que Claude essayait d'en passer une petite vite. Moi, c'est ce que j'ai vu, là. Je regarde les gars qui étaient là, puis c'est pas du tout ce que Claude Julien racontait après le match.
Mais pourquoi le Canadien n'est pas meilleur que ça? Pourquoi le Canadien joue pas mieux que ça? Est-ce que c'est le reflet de l'équipe qu'ils sont vraiment? Est-ce que des matchs comme ceux qu'on a vus mardi contre Boston, qui a bien tourné pour le Canadien, mais comme hier, qui a pas bien tourné, est-ce que ça va être ça, le lot? Est-ce que ça va être à ça qu'il va falloir s'habituer cette année?
Mais tu sais, en même temps, je pense qu'il n'y a rien de gênant à battre les Bruins 5-4, même si c'était pas la performance la plus complète. Puis je sais que les Bruins jouaient la veille. Ça reste que c'était pas gênant comme performance. Hier, ça l'était beaucoup plus. Ça l'était également à Dallas samedi. Mais ça demeure une équipe, et on le dit depuis l'été, je pense, ça demeure une équipe sur la limite qui va se battre probablement jusqu'au bout. Et à mon avis, il va arriver tout juste à court. Peut-être qu'ils vont rentrer aussi, mais ça demeure c'est pas une équipe qui va finir la saison avec 105 points, et puis c'est pas non plus une équipe qui va finir à 70 points. Mmh. C'est vraiment une équipe sur la ligne qui permet d'accéder aux séries, et ce genre d'équipe-là, ben c'est ce que ça donne. C'est des hauts et des bas. C'est des soirs d'égarement comme hier et comme samedi à Dallas. Et puis d'autres soirs, c'est une équipe qui est capable du meilleur, particulièrement quand le niveau de compétition est élevé, comme justement contre Boston, à Vegas. Le Canadien a quand même battu de grosses équipes, là.
Mm-hmm, certainement.
Ce match-là contre Boston, je reviens à ce que Guillaume disait, là, c'est une performance qui m'a... que j'ai trouvé très intéressante et probablement le... pas intrigante, intéressante. C'est une performance que j'ai trouvé intéressante parce que le Canadien a réussi à reprendre l'avance dans le match 4 fois avant de la gagner, avant de gagner le match. Faut quand même le faire, là. C'est beaucoup. Là, je suis d'accord, tout corasque, là. Il y en avait une mauvaise
encore. Il était généreux. Il était en forme.
Mais disons, les deux gardiens.
Les deux gardiens, bon, c'était pas un exemple à suivre pour la jeunesse devant le filet. Mais ce match-là, moi, m'a fasciné parce que le trio de Dano, je crois, a eu un de ses meilleurs matchs, une de ses meilleures soirées, a laissé voir ce qu'il était capable de produire, ce qu'il était capable de réussir contre un trio qui est sur papier meilleur qu'eux. Puis on s'entend, là, les match-ups de Claude Julien n'étaient pas compliqués. Là. C'était un contre l'autre pendant tout le match. Et à la défense, je vais être le premier à l'admettre, Chariot et Weber, moi, j'y croyais pas. Moi, je pensais qu'ils allaient se faire contourner comme des comptes parce que c'est pas non plus des défenseurs reconnus pour leur superbe vitesse. Mais force est d'admettre que Claude Julien, à ce moment-là, dans la circonstance dans laquelle il était, il a pris la bonne décision avec ses duos défensifs. Puis son équipe sur la glace a fait un excellent boulot pour contenir le meilleur trio de la Ligue. Alors, cette équipe-là, ce match-là contre Boston, me donne une perspective du Canadien que j'ai beaucoup de difficultés, honnêtement, à réconcilier avec le Canadien qu'on a vu contre les Flyers de Philadelphie, qui était carrément pas là. Puis je pense pas que ce soit une question de pairing de défense. J'ai vraiment l'impression que ça va beaucoup plus loin que ça. Et le punch offensif du Canadien Et là, en plus, c'est des buts marqués par les défenseurs contre les Flyers. Le punch offensif du Canadien s'éteint certains soirs. Et je vais être honnête, je ne suis pas capable de mettre le doigt sur la raison.
Et s'éteint certains soirs, c'est éteint contre les Bruins de Boston. Victor Mété a marqué deux fois. Ben Chariot a marqué. Dans le dernier match, t'as Weber qui a marqué. T'as Chariot qui a marqué encore une fois. Donc, veux pas, là, tu regardes ça. La majeure partie des buts du Canadien de Montréal dans les deux derniers matchs, c'est les défenseurs.
Cinq sur sept.
C'est ça, les attaquants, je pense qu'il y a un petit problème. Puis tantôt, j'ai l'impression que j'ai un peu assommé avec mes joueurs, mes chiffres, puis lui, 32% puis 62%. Mais pour moi, là, ce que ça me dit, c'est que quand Claude Julien fait ça, c'est parce qu'il est en train d'essayer de tricher un peu parce que son club, selon moi, malgré la victoire contre les Bruins, il n'y a rien qui se passe à l'attaque. Il n'y a rien qui fonctionne à l'attaque présentement. Il n'y a plus cette passion-là, l'énergie nécessaire. Fait que donc, Julien, veut pas, il est obligé de manigancer, essayer de trouver des petites passe-passe pour faire en sorte de pas trop que son équipe ait pas trop de difficultés parce que offensivement présentement, c'est difficile pour le Canadien de Montréal.
Et même l'avantage numérique, ben, c'est pas hier qu'on l'a vu à l'œuvre, là, mais l'avantage numérique a régressé en termes de statistiques. Là, après un fort début, ça a des allures de l'an passé, comme quoi des fois, les débuts de saison peuvent être trompeurs d'un bord ou de l'autre. Si on fait une petite parenthèse pour regarder un peu ailleurs avant de revenir sur le Canadien puis l'alignement de demain, là, ce qui se passe, ben on peut parler du Canadien et d'autres équipes par rapport à la situation des blessés. Il y a juste Kotkaniemi qui a raté plus d'un match, en tout cas quelques matchs à cause d'une blessure. Il y a pas eu
Armia,
c'est vrai. Ouais.
Ça, c'est ça. Disons que dans notre évaluation du Canadien, il y a ça qu'il faut pas oublier.
Fait que c'est une équipe en santé. Puis Guillaume, tu me suggérais que donc les repos, ils sont pour quelque chose. Tu penses dans la gestion de l'effectif du Canadien?
Ben c'est parce que là, ça fait deux années de suite. Là. L'an passé, Canadien, j'ai ressorti le chiffre. Les joueurs, au total, ont raté 160 matchs pour blessure. C'est pas un énorme chiffre. J'ai pas le classement. Il n'existe pas de classement là, de ça comme tel, mais ça reste que c'est un chiffre élevé parce que c'est assez fréquent quand tu regardes vers les fins de saison de voir des équipes qui ont 200 puis même 300 matchs ratés sur des blessures.
Là-dessus, t'as Weber qui a manqué tout
ben,
le début.
C'est ça. Mais... T'avais une vieille blessure à Weber là-dessus. Ouais. T'avais David Schlemko qui est toujours blessé de toute façon. T'avais Nikita Sherman. T'avais Nikita Sherbak, t'avais Thomas Plekanec, t'avais des joueurs comme ça, là, plus, plus marginaux. Donc c'est ça. Donc, la saison dernière, ça fait finalement deux années de suite là, que le Canadien est très en santé. Je pense que ça, c'est un aspect dont on parle pas souvent, mais que visiblement, il y a une bonne gestion de l'énergie qui est faite. Tu sais, des fois, le Canadien, on apprend qu'ils sont en congé d'entraînement, puis là, les gens...
Mais la façon de réagir, c'est peut-être qu'il y a un lien entre le fait qu'ils sont pas blessés, mais s'ils sont si reposés que ça, on devrait les voir sortir dans des matchs où on s'attend des performances, puis il n'y a pas de lien entre le niveau de repos puis le niveau d'intensité puis de performance. Et ça, ça m'agace, parce que oui, on est obligé de constater que... Puis tu regardes le calendrier depuis le début de l'année, là, c'est quand même... Ça a été un pas pire calendrier. La première tranche de 10 matchs avait ses obstacles, là, mais je parle en termes de fréquence de matchs, il y a eu pire que ça. Mais on les voit ne pas sortir dans plusieurs matchs. Alors, c'est là que je me questionne, coudon, est-ce que c'est le reflet de l'équipe ou c'est le reflet de leur désir de vaincre?
Moi, je vais vous dire, j'ai l'impression que par moment, c'est un manque d'humilité chez les Canadiens de Montréal. Tu sais, quand tu penses que t'es
meilleurs qu'ils sont?
Je pense que oui. Je pense que oui. Quand tu penses que t'es rendu là, moi, personnellement, là, je regarde jouer Max Domi, là, et je vois une multitude de gestes individuels, tu sais. Je me dis, OK, le contrat s'en vient, on essaie de
faire la même affaire l'an passé, en passant,
ouais,
là.
Moi, il a connu une grosse saison l'année passée, il a eu beaucoup de points, j'ai l'impression qu'il veut répéter ça. Moi, je pense que ça prend beaucoup d'humilité quand tu t'appelles un joueur, quand tu fais partie de l'organisation du Canadien, parce que t'as pas de top-notch de la Ligue nationale de hockey dans ce club-là, et tu dois jouer avec beaucoup d'humilité. Puis je répète les propos de Pat Byrne, si tu mets pas tes bottes de travail, tu gagneras pas de match. Et chez le Canadien, ça prend les bottes de travail à chaque rencontre, puis on n'a pas mis nos bottes de travail contre les Flyers. Ça fait en sorte que tu perds des matchs. Quand t'es pas humble, quand tu travailles pas comme un col bleu, quand tu penses que t'es un col blanc, ben tu te trompes. Pour moi, la situation chez le Canadien, c'est ça. C'est que par moment, on manque d'humilité un petit brin.
Les gars?
Wow, hein, c'est sidérant.
Non, mais c'est...
C'était tellement bien expliqué, Mario, là, tu me regardes comme ça, là, on rien d'autre à dire, c'était parfait.
C'est complet c'était, comme propos.
C'était ça. Mais, fin de l'émission, c'était ça que tu disais.
C'est tout à fait vrai, puis je pense que ça revient aussi quand la notion d'humilité, moi, ça revient également aux Canadiens qui... on dirait, répond moins contre des équipes plus faibles. Puis ces dernières années, le Canadien me donnait l'impression d'avoir arrêté cette tendance-là, là, de s'écraser des fois dans les matchs qu'il doit gagner. Mais là, cette année, jusqu'à date, je trouve qu'on le voit souvent. Je trouve qu'on a vu des mauvaises performances contre des équipes qui sont pas nécessairement là, de grande puissance.
S'ils n'ont pas peur d'en manger une, là, ils ont un effort comme ci, comme ça. Ben, si ils ont peur d'en manger une, là, normalement, tu as un plus gros effort. Ouais. Mais moi, je suis pas mal d'accord. C'est pour ça que j'étais curieux de voir ce que les gars en pensaient, parce que je répète depuis pas juste cette année que c'est une équipe à Montréal. On dirait, je sais pas si c'est le marché qui fait ça, Jérémy, parce que on tombe tellement dans l'excès positif et négatif assez régulièrement que je pense qu'effectivement, inconsciemment ou consciemment, les gars se contentent de pas tant que ça. Tu sais, moi, tu sais, samedi passé, le dernier match, il avait remporté les deux matchs à route. Puis, OK, c'est vrai, tu peux pas chialer. L'équipe a gagné ses trois matchs précédents, ils perdent samedi. Mais c'était le signe d'une équipe qui a pas plus d'ambition que ça aussi. C'était un match prenable samedi. Puis eux autres, ben, le voyage était fait. Ils avaient ramassé les points qu'il lui fallait. C'est comme le gars qui dit, gars, moi, je fais-tu du 37h30 ou ben, je fais 50 heures par semaine puis je me paye ma maison en tant d'années, si vous me permettez une comparaison tout à fait boiteuse. Eux autres, c'est comme ça qu'ils gèrent, j'ai l'impression. Puis ce groupe-là, comme bien des groupes à Montréal, parce qu'ils se font trop flatter dans le sens du poil, je pense, même s'ils pensent que c'est un marché bien difficile à Montréal, un marché tellement difficile qu'après une année de cul, on se fait ovationner.
C'est ça, mais c'est quoi? Je suis juste rajouter, excuse-moi, Jeff, ouais, juste rajouter là-dessus.
C'est mon langage d'échapper, c'est
le non, c'est correct. Mais j'ai l'impression que souvent à Montréal, puis je vais parler du Canadien, je parlerai pas des autres organisations, mais le Canadien, entre autres, veut se mettre dans une bulle de verre pour éviter d'entendre ce qui se passe à l'extérieur. Dans cette bulle de verre-là, règne la philosophie du never too high, never too low. Ça veut dire, ne sois jamais trop déçu, comme ne sois jamais trop content. Mais quand t'es tout le temps moyen, médium, là, ben, des fois, tu manques d'intensité, puis tu manques de passion dans ton jeu. Puis je trouve que, par moment, c'est ça qui arrive aussi chez les Canadiens. C'est never too high, never too low, mais c'est pas un très bon médium. Et c'est ce qui arrive. Fait que donc, à un moment donné, il faut peut-être que tu l'enlèves, la cloche, que tu sentes un peu ce qui se passe alentour pour remettre de l'air frais dans la cloche. Tu peux la remettre, mais remettre de l'air frais dans la cloche puis recommencer à travailler.
Max Domi, qui sent peut-être l'odeur des billets d'un nouveau contrat, joue du hockey très ordinaire, mais j'avais envie de demander, c'est lequel le pire des trois, Armia, Drouin ou Domi dans la dernière séquence de trois matchs?
Domi me laisse vraiment sur ma faim.
Par vraiment beaucoup de rondelles. Oui. Drouin, j'ai l'impression qu'il souffre un peu des problèmes de Domi. Puis Armia, comme il revient d'une petite blessure de deux matchs, moi je me demande simplement s'il traîne pas encore un petit quelque chose.
En tout cas, ça nous permet de régler une affaire, les gars. Il marquera pas 30 buts finalement.
Armia est pas rendu, là, on s'entend. Là. Il y a eu un bon moment, mais Armia, c'était pas nécessairement un exemple à suivre pour l'éthique de travail 24/7 non plus là. Et puis là on revoit un Armia peut-être un petit peu plus paresseux moins impliqué
moins constant
comme on voyait l'année passée le Armia des derniers matchs là c'est pas celui on avait commencé à ériger la statue là, de Joel Armia il y a quelques temps là celui qu'on voit en ce moment c'est moins intéressant. Domi perd ses batailles mais je suis pas prêt pour l'instant à jeter pierre à Jonathan Drouin. Je trouve qu'il continue à essayer, mais son trio, certainement la cohésion et l'éthique de travail en général, c'est moins là en ce moment.
Hier, Martin McGuire, hier, a nommé, écoute, pour la première fois, je l'ai entendu, a nommé Armia avec 4 minutes à faire en deuxième période. Je me suis dit, mon Dieu, il joue. Je l'avais pas entendu du match. Rien. Et là, pouf! On est arrivé en fin de deuxième, on a entendu Armia. Ça explique aussi le fait qu'il y a eu beaucoup de désavantages numériques. Le trio d'Armia avec Domi puis Drouin n'a pas joué beaucoup, étant donné le grand nombre de désavantages numériques, mais ces gars-là étaient tout simplement pas là hier face aux Flyers.
J'aimerais ça revenir une seconde sur la discussion d'avant, comme on dit que le Canadien, des fois, avait peut-être hésité ou était peut-être pensé qu'il était rendu là, hésitait un peu à mettre ses bottes de travail. Moi, j'ai été rassuré hier, puis on a parlé un peu au début, de voir Carey Price casser son bâton sur son genou après le match. J'ai été rassuré de voir Paul Byron. Paul Byron n'a pas une bonne saison. Je pense que n'importe qui avec deux yeux peut se rendre compte que Paul Byron, il y a moins d'explosion, il est moins à la bonne place qu'avant. On dirait que tout marche pas pour Paul Byron en ce moment. Et en plus, il est sur le trou noir offensif qui est le troisième trio. Sauf que Paul Byron, contre Boston, je pense, a manqué une couverture. Hier, il a manqué une couverture sur le but. La pénalité venait de se terminer depuis quelques secondes, donc c'était pas officiellement un but en désavantage numérique. Il a manqué sa couverture sur le but et il est allé au banc et il s'est mis à frapper dans sur le banc devant lui, dans la bande en avant de lui, de rage. Et je veux dire, il y a des joueurs dans cette équipe-là qui n'acceptent absolument pas la défaite. Brendan Gallagher en est un. Brendan Gallagher me parlait la dernière saison de sa règle des 2 heures. Après une défaite, il se permet d'être en maudit pendant 2 heures de temps. Après quoi, il s'accorde le droit de passer à autre chose. À un moment donné, tu ne peux pas être fâché à tout moment. Mais son niveau de compétition est tel que lui disait « j'ai besoin de 2 heures ». Où personne ne me parle, où j'ai le droit d'être fâché. Alors, il y a des gens dans cette équipe-là qui refusent la défaite. C'est peut-être pas le cas de tout le monde, je suis d'accord, mais je peux pas dire que c'est un symptôme que
Byron,
touché tout
leader.
Le monde.
C'est un leader, Byron. Price, c'est un
d'accord.
Leader.
Oui, oui. Mm-hmm.
Gallagher a cassé des bâtons, c'est à cause de sa blessure. C'est un leader aussi. Tu penses-tu que c'est une façon pour eux de saisir un moment où il se passe de quoi avec eux pour dire « Hey, la gang, réveillez-vous? »
Je pense que oui. Je pense que c'est un message très public de rage et de frustration qui envoie d'abord et avant tout aux coéquipiers.
Parce que Weber casse pas de bâton lui en rentrant après.
Non, c'est ça, exact. C'est un autre type,
mais il est leader à sa façon.
Mais c'est sûr que ça t'en prend également justement des types plus démonstratifs. Moi, il y a un petit point que j'aimerais amener, puis c'est vraiment pas pour désavouer la transaction, parce que je continue à penser que c'est une bonne transaction, mais pour des petites choses comme ça, je me demande si Andrew Shaw des fois manque pas un petit peu aussi. Le Andrew Shaw de l'an passé, entendons-nous, parce que là, cette année, du moins offensivement, Andrew Shaw est redevenu ce qu'il était auparavant. Là, il a 5 points en 15 matchs. Il joue des minutes de troisième trio. C'est l'Andrew Shaw qu'on a toujours vu. L'an passé, je pense qu'on a vu une version exceptionnelle de lui, mais ça reste que on le sait, le chat, sa valeur a toujours résidé dans les petites choses qu'il amène, qu'il ne se voit pas sur la feuille de pointage. Puis ça, ben justement, c'est le genre de choses peut-être qui peut manquer certains soirs aux Canadiens. Oui, on a beau dire que Nick Cousins apporte son énergie, un style similaire à lui, mais il n'y a pas le statut d'Andrew Shaw, il n'y a pas le leadership d'Andrew Shaw, il n'est pas rendu là. Alors ça, c'est peut-être un petit quelque chose qui n'a pas été comblé et qui certains soirs peut manquer à l'équipe.
D'accord. Écoute, Guillaume, très d'accord avec ça. Je vais dire, Andrew Shaw, c'était le contre qui surveillait tout le monde, savoir s'il travaillait. Ouais. Là, on n'en a pas de contre-maître peut-être à l'attaque cette année, à part Gallagher, mettons.
Il joue entre 9 et 13 minutes à Chicago. Là, je regarde juste ses 5 derniers matchs. Il a joué un match à 15 minutes. Mais sais-tu, s'il était à ce point instrumental au fait que le Canadien puisse jouer des matchs d'émotion, je me demande si Bergevin, selon sa perception à lui, il l'aurait laissé partir.
Ben, non, c'est
pas un grand contrat. Et ce que j'ai envie de suggérer dans la conversation, c'est que je me demande combien de gars qui allumaient puis combien de gars y étouffaient.
Ouais, ben non, moi je pense
que parce que tu sais là, vous avez tout été d'une chambre de quelque chose là, d'une équipe de bowling ou n'importe quoi là. Non mais pour vrai, dans des sports, il y a des
non mais dis-moi physiques. Mario, oui. combien de coupes Stanley qu'il y a Andrew Shaw?
Ouais, mais si, je veux dire, je peux t'en sortir des gars qui ont gagné des coupes Stanley. Moi, je te parle de 2019, là.
Non, mais je te parle dans le vestiaire du Canadien, quand t'as un gars qui a gagné 2 coupes Stanley. Si ça étouffe quelqu'un, ben, excuse-moi, t'es pas à bonne place, là.
Moi, je pense que Andrew Shaw était une figure très populaire du vestiaire du Canadien.
Ouais, tu penses?
Sûr et certain.
OK. Parfait.
Moi, je pense que ça a été un choc pour plusieurs de voir partir Andrew Shaw dans le vestiaire. C'était quelqu'un qui rassemblait les groupes qui étaient, on le voyait sur les réseaux sociaux, on le voyait dans le vestiaire, il était très, très impliqué à créer la chimie d'équipe. Je pense que le départ d'Andrew Shaw va beaucoup plus loin que simplement sur la glace, à mon avis.
C'était
le meilleur moment. Il restait 3 ans
au contrat. Moi, je me suis demandé si t'as pas le genre de gars qui pouvait étouffer un Drouin, par exemple.
Ah, je pense.
Tu sais, qui pouvait un peu être peut-être, comment dirais-je,
trop sur son
devenir hors de lui. Ouais. Hors de lui quand, mettons, des gars offraient pas un effort que lui considérait maximal. Et sa façon de tenter de stimuler ses coéquipiers, peut-être, ne touchait pas la cible. Et peut-être que quand on est venu le temps d'envisager la saison qui suivait, on s'est dit, ben, avec qui qu'on veut faire notre avenir? Avec un gars ou des gars comme Jonathan Drouin ou des gars comme Andrew Shaw? Mais je spécule, les gars, c'est juste sur...
J'aime ton idée, Mario. Puis sais-tu quoi? Si Andrew Shaw, exemple, était un élément perturbateur pour Jonathan Drouin parce que peut-être qu'il lâchait pas, pas ou quoi que ce soit.
J'ai pas de preuve de ça, mais ça aurait pu arriver. T'sais.
Je continue ta réflexion en disant, je peux comprendre qu'on ait enlevé Andrew Shaw. La seule chose que je dis, par contre, c'est que il va falloir que tout le monde se prenne la responsabilité de travailler soir après soir, parce que Drouin, il a pris cette responsabilité-là cette année. On avait des doutes dans les matchs pré-saison. Mm-hmm. Lui, il l'a pris. Et là, les autres doivent le prendre aussi. T'sais, à un moment donné, c'est pas une garderie. Là. Fais ta job puis fais-la bien. C'est ça ton... T'es payé pour faire ça, ben fais ta job.
Mais parlant de garderie, parlons avec humour. Là, c'était juste faire un lien avec la souris.
Quel lien.
Parlant de CPE, les gars, eh bien, parlons des jeunes joueurs de l'équipe. Et dites-moi, est-ce que vous réintégrez, là, on va tous jouer au coach puis au GM, là, est-ce que Kotkaniemi joue demain pour vous contre Los Angeles? Première question.
S'il va bien.
Ben, s'il va bien. On présume qu'il est en forme, là, puis là, il gigote, là, sa glace tout seul, pauvre petit gars. Puis là, il a hâte de revenir. Fait que là, est-ce que vous le faites jouer si le médecin vous a dit, oui, il est prêt?
Je pense que oui. Je pense que. Je dis pas au mérite. Je pense qu'au mérite, j'ai plus hâte de revoir Jordan Will, personnellement. Mais en même temps, Kotkaniemi étant ce qu'il est, c'est-à-dire un joueur de deuxième année, un troisième choix au total, tu peux pas le laisser éternellement dans les gradins non plus. Donc oui, je pense que tu le ramènes demain.
Mais par pas contre, parce que t'en as envie. C'est ça que j'entends, là. Donc, ben, ça, c'est une réponse un peu politique, Guillaume.
Ben, je pense que Jordan Will n'a pas eu beaucoup d'occasions, je trouve, depuis. Ouais. Tu sais, à partir du moment où
non,
on a décidé.
Dans le fond, ton gars, donc il est pas dans le line-up. Si tu suis ton gut feeling, il est pas là pantoute, là.
Ben, je veux dire, c'est simplement que c'est pas comme si sa blessure l'avait coupé dans un moment où il était absolument dominant non plus.
Tu fais-tu la politique, Guillaume?
Avec un veston comme ça, pis tout, Guillaume.
Bon, hey!
Oui, vas-y, Jérémy, là-dessus. Est-ce que toi, tu le fais jouer?
C'est clair que tu le fais jouer. Claude Julien attend juste une mauvaise performance pour le rentrer dans l'alignement à nouveau. C'est clair qu'il va jouer contre les Kings de Los Angeles. Il attend juste ça. Kotkaniemi attend juste ça. Et savez-vous quoi? Moi, je regarde Peeling. Peeling a eu quelques difficultés, mais c'est pas lui qui m'a démontré le moins d'intensité. Il a fait des gaffes, c'était pas toujours droit, mais il m'a démontré de l'intensité. Fait que c'est pas Peeling que j'enlève, moi. C'est pas du tout. C'est pas Ryan Peeling que j'enlève de l'alignement. Mettez Peeling à l'aile, mettez où ce que vous voulez, arrangez-vous, mais c'est pas Ryan Peeling que j'enlève de l'alignement contre les Kings de Los Angeles.
Est-ce que t'enlèves Tatar, non?
Ouais, mais là, on serait moins avec un joueur de trop.
Mais qui t'enlève, Jérémy, c'est pas vrai?
Ben, c'est ça, faut
écoute,
sortir,
sincèrement, ouais. Le plus facile serait sortir Cousin. Pour moi, ça serait plus facile, mais Cousin a été mis sur le premier trio.
Ouais, non, il a allumé le premier trio.
Exact.
Vraiment.
Mais c'est le plus facile, les gars, soyez honnêtes, là. C'est le plus facile. Là, tu me parles de Jordan Will, là. Attendez. Tu me parles de Jordan Will, Guillaume, là, puis je comprends que c'est un bon joueur de hockey, là, mais c'est le plus facile à tasser aussi. Cousins aussi est facile à tasser.
Absolument, c'est ça. Ces gars-là sont victimes de leur statut, mais Cousins, il y a littéralement, je dis qu'il a ressuscité le premier trio, mais en fait, ce changement-là, quand Cousins a embarqué avec Dano et Gallagher hier, c'est vrai, c'est ça qu'on dirait qu'il a un peu ressuscité le Canadien.
C'est le but, je pense, qui a ranimé le Canadien.
Oui, exact.
Ça passe ce changement de trio, mais je pense que le but leur a redonné vie, puis oui, avec l'enchaînement des changements de trio. Mais toi, GF, est-ce que tu le fais jouer Kotkaniemi?
Kotkaniemi, je le fais jouer. Puis okay. je
qui sort?
Peeling, retour dans la Ligue américaine. Pour moi, ça n'a pas été... pour moi, c'est pas concluant. C'est deux matchs où il y a... Bon, j'utilise souvent l'expression « trou noir offensif » entre Byron et Lekkonen. Ça reste vrai. C'est très dur de faire des miracles entre Lekkonen et Byron en ce moment. Mais je pense pas que Peeling a démontré qu'il devait absolument garder sa place dans la formation. Il a peut-être encore besoin de temps de développement. Je suis pas mal à l'aise à ce qu'il continue à le faire dans la Ligue américaine. J'en profite pour parler de ce trio-là parce que Claude Julien, en ce moment, le garde présent sur le garde ensemble parce que je crois que ces trois autres trios lui donnent quand même une certaine satisfaction. Alors, il est un peu condamné à pas bouger ce trio-là, même si de toute évidence, là, il a essayé Suzuki au centre, il y avait Kotkaniemi au centre, il a essayé Ryan Peeling au centre. Je veux dire, puis à chacune des fois, le trio est à peu près invisible.
Je vais ajouter quelque chose, Mario. Excuse-moi de te couper. Exemple, là, tu me parles d'un trou noir offensif avec le troisième trio. Tu dis que Lekkonen, ça va nulle part. Byron, ça va nulle part. Et là, on parlait de Ryan Peeling. admettons, là, Arturi Lehkonen a quand même pris deux pénalités dans le match d'hier, là, puis il fait sweet nothing depuis le début de la saison. Là. Mm-hmm. Pourquoi pas, lui, Lehkonen ne pourrait pas faire un petit tour à sa galerie de presse?
Je serais absolument à l'aise, moi.
Poigne-les, Peeling, m'aller à l'aile, ma Kotkaniemi au centre, puis mets-moi Paul Byron de l'autre côté, ben, peut-être que le trou noir va se fermer, puis ça ne sera plus un trou noir pour un certain temps. Puis là, à un moment donné, Lehkonen va se rendre compte que c'est beau faire, tu sais, parce qu'on dit tout le temps qu'il fait bien des petites choses, là, mais c'est parce que tu as besoin de faire de bonnes, grosses choses une fois de temps en temps, puis on est là pour Lehkonen.
Oui, j'aurais aucun malaise à voir Lehkonen prendre quelques matchs de repos. Je sais en pas ce si moment, là, aucun malaise.
L'identité de l'adversaire va toujours influencer les choix d'un entraîneur. C'est un gros club, Los Angeles, physiquement mm-hmm. encore, même si c'est pas, ce n'est plus un gros club en termes de menaces.
Non, mais ils ont des gros gabarits.
Je sais pas. Est-ce que
Lehkonen est un génie défensif. Il est à zéro cette année. Là, je sais que le différentiel a une limite là, de ce que ça veut dire, mais il reste à zéro en ce moment.
Je regarde le temps de glace des gars hier, puis ça nous indique que Ryan Poehling a 9 minutes 38, puis il n'a pas joué bien plus que 10 minutes l'autre soir non plus.
Non, exact. Mais c'est sûr, les désavantages numériques, ça
a tout débalancé. C'est difficile à dire parce que j'aurais envie de dire, lui et Suzuki sont les moins utilisés hier, donc semblent les moins, les plus vulnérables à être retranchés de l'alignement.
Je pense pas qu'il va toucher à Suzuki. De façon globale, dans les derniers matchs, ça va bien pour lui. Je crois pas qu'il va. Je crois pas que Claude Julien va
écarter Byron. Écarter Byron, ça se fait-tu?
Non, je pense pas. Ça se
fait pas. Il respecte trop. Il va falloir qu'il invente une blessure.
Mais les gars, c'est dans le fond, les noms, c'est Cousins.
Non, mais c'est ça. Il va y inventer une blessure ou une grippe, c'est le sort.
Ils sont capables. Mais... Cousins, Byron, Lehkonen. Mettons, seraient les trois plus vulnérables. Peeling et Suzuki. Mais moi, je suis pas mal d'accord avec Jean-François. Bruno Gervais, j'ai sursauté vendredi passé quand il m'a dit ça, avant qu'on voit Peeling en premier match, ou lundi, je pense, avant son premier match. C'est lundi. Il dit que Peeling va être cédé dans la Ligue américaine. C'est sûr qu'il n'y a pas trop de troubles à le céder dans la Ligue américaine. T'as pas de ballotage,
ben,
les gars.
Ben ouais,
puis en même temps, c'est une autre leçon de dire, hey buddy, t'étais pas content, comment tu mènes que t'as boudé là, en bas, là, avant de te rendre compte que d'être négatif, ça aidait pas ton jeu. Ben, retourne-y. Puis là, ben, la bonne attitude en partant, parce que en 10 minutes par game, t'as rien brûlé de cette petite.
Mais Mario, sais-tu quoi? Moi, je trouve ça injuste. Et je sais qu'il n'y a pas de justice au hockey, puis je suis le premier à le dire. Mais je trouve ça injuste parce que Ryan Poehling, n'eût été de cette mise en échec dans un match hors concours, ferait partie de l'organisation du Canadien de Montréal avec un autre sticker collé dans le front que celui qu'il a présentement. On parlerait d'un jeune qui est là pour l'avenir, un gars qui se développe bien, avait joué des bons matchs pré-saison. Bang! Commotion cérébrale. Ah, il avait bien joué, honnêtement.
Je rejoins Mario, je suis pas d'accord non plus, parce que oui, il avait très bien joué, mais ça reste que c'était dans la première semaine du camp, là où c'est toujours plus facile pour les jeunes de se démarquer.
Exactement.
Il y a rien qui dit qu'il aurait pas été rattrapé aussi dans les premiers matchs de la saison. Oui, peut-être. Il aurait possiblement commencé la saison à Montréal sans sa blessure.
Ça aurait été la même erreur qu'avec Kotkaniemi l'an passé. Ils l'ont gardé. Moi, je pense que ça a été une erreur de garder toute l'année. Puis là, ça veut pas dire qu'il deviendra pas un bon joueur. Je dis pas que c'est une erreur qui va écouter sa carrière. Sinon, c'est parce que c'était pas le bon gars, tout court, là. Mais puis il y a une différence aussi de contexte. J'enchaînerais dans ton sens, Jérémy, si nous étions à Ottawa. À Ottawa, on coach pour finir dernier, pour gagner la loterie, pour aller chercher Alexis Lafrenière. On le fait comme ça. Ici, Claude Julien, sauf pour coach pour, je veux dire, maintenir sa crédibilité, coach pour gagner des matchs et donner une chance aux partisans d'espérer que le club va faire les séries. Et je pense que ça change tout parce que quand tu hésites à utiliser des gars comme Kotkaniemi et Poehling en certaines situations, ça te dit, hey, je veux pas perdre ce match-là à cause de ces gars-là. Mais qui abdique, ça va être une autre affaire. Puis moi, il y a une chose que j'irais pas voir. Honnêtement, penseriez-vous que ça pourrait donner des résultats? Ça a déjà existé ici et là dans certaines équipes, les kid line. À un moment donné, si tu es dans un contexte d'Ottawa où que, OK, on va compétitionner nous autres, mettons, à rendu en février, on se rend compte qu'on n'est pas dans le coup. Mais moi, Suzuki, Kotkaniemi puis Poehling, c'est la même ligne. Let's go, boys.
Bon, moi, je le ferais. Ça, c'est sûr, certain, je le ferais.
À domicile. Ouais. À domicile, tu le fais quand tu peux choisir les match-ups. Pourquoi pas? Si en arrive là, éventuellement.
Mais là, on veut faire les séries, right?
Je serais curieux de le voir parce que de toute façon, Poehling et Suzuki, c'est quand même deux joueurs qui ont une bonne conscience défensive.
Mais je l'aime, Poehling, là.
Moi, je.
Mais les boys, moi, ça me ferait. Ça me ferait. l'histoire des match-up, là. Guillaume t'a dit ça, l'histoire des match-up. Écoute, ben, quand t'es pris pour mettre ton trio contre un trio parce que tu penses que ton trio peut pas dominer les autres, écoute, c'est pas parce que t'as de la profondeur dans ton club, là. Je peux comprendre une quatrième ligne contre une deuxième ligne, là. Mais en général, écoute, les jeunes, fais-les jouer, là. Puis à la limite, s'ils produisent pas, ben, t'es là sur le banc, puis le trio 1, 2, 3 vont jouer. Mais en quelque part, tu sais, l'histoire des match-up, laissez les gars jouer. Et moi, Mario, j'achète l'idée, mets les jeunes ensemble, puis on verra ce que ça donnera. À la limite, on aura des réponses, ce qu'on n'a pas présentement.
Mais je te parlais d'un scénario où tu luttes moins pour une place en série, Jérémy. Puis même là, je serais curieux de l'essayer même, peut-être un match. Oh. S'il y a des blessés, peut-être que ça, la situation va se prêter à une telle expérience pour Claude Julien. Et on est sur le point de repartir la musique, les gars. Fait que donc, Kotkaniemi, vous, il est dans l'alignement demain. Donc clairement, on voit que le Canadien n'a pas l'intention de l'envoyer à Laval, pas du tout pour l'instant. Puis j'espère qu'il va rebondir. Vous attendez-vous un gros match? Parce qu'il a beau avoir été blessé, moi je pense qu'on lui a donné un repos mental aussi, non?
Oui, ben c'est sûr que ça fait partie. Là. C'est probablement un peu des deux. Par contre, comme on le disait, les Kings, c'est une grosse équipe. Je sais pas si c'est le meilleur adversaire pour lui, mais on verra.
Ça sent-tu le deux points, les gars, Jérémy? Ça sent-tu le deux points demain soir? Ou...
Match ordinaire pour Kéké et défaite du Canadien face aux Kings.
Ouais.
Excuse-moi, c'est pas
non,
ma faute.
Non, regarde, Jean-François.
Ouais, je...
Ouais, les boys. Okay, c'est-tu la neige, okay,
le OK, victoire contre les Kings, ouf, mais match ordinaire de Kotkaniemi.
Ça avait l'air difficile, ça.
Oui, ça sortait pas, Mario, je suis désolé.
OK, Guillaume, vas-y avec un peu d'enthousiasme.
Ben, victoire du Canadien parce que les Kings ont un vendredi de congé à Montréal.
Ça, c'est le meilleur argument. Ça a pris 44 minutes qu'on entend un argument aussi solide. Hey, Guillaume, moi, je pense que je vais me ranger sur ton bord, peu importe les raisons. Pas sûr que quelqu'un va jouer une grosse. Puis je pense que Poehling va être dans l'alignement. Fait que j'ai hâte de voir quel vétéran va être retranché. Non, je change d'idée. Poehling va être retranché. On a-tu le droit de changer d'idée?
Ben oui, t'as le droit.
Mario. OK, les
c'est
gars.
Ton show, c'est à toi.
Hey, les boys, c'est à nous autres, cette affaire-là. Hey, salut Jérémy, salut Guillaume, salut Jean-François.
Salut Mario.
C'était Sortie de zone. On vous retrouve lundi. Bonne fin de semaine.